la suite de votre grand journal du soir, ce soir spécial, une édition spéciale où l'on revient ensemble sur cette période de confinement que nous avons vécue. Vous pouvez continuer à réagir au 3921 pour venir nous rejoindre en direct et on lit également tous vos commentaires, vos questions, vos réactions sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et on commence à entrouvrir les rideaux du monde d'après. Voilà, on est ensemble jusqu'à 20h avec le sociologue Jean Viard, l'économiste Nicolas Bouzou et Hélène Romano qui nous a rejoint également ce soir. Bonsoir, vous êtes psychothérapeute et essayiste. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser la première question, je crois toute simple, mais qui s'impose à mon sens. Les Français sont-ils prêts à se déconfiner, Hélène Romano ?
Tout va dépendre des Français et je pense que c'est vraiment important de ne pas généraliser. On a autant d'histoires, vous l'avez dit précédemment, que d'individus. On ne peut pas dire oui, globalement tous les Français sont prêts à se déconfiner ou non, ils ne sont pas prêts parce que chacun l'a vécu différemment ce confinement. Il n'y a pas eu les mêmes enjeux individuels, familiaux, professionnels. Donc certains sont très pressés d'être déconfinés, entre guillemets, même si ce terme est très déshumanisant, on a l'impression d'être des boîtes de conserve. On aurait pu trouver un autre terme, mais bon, c'est une autre thématique, mais vous avez des personnes qui sont pas du tout pressées de l'être. Donc pour chacun, ça va être différent. C'est plus différent pour un enfant que pour un adulte en bonne santé qu'un adulte en mauvaise santé qu'une personne âgée. Donc ce qui est important, c'est de respecter la singularité des individus et de pouvoir généraliser. Ça, c'est vraiment fondamental si on veut réussir cette sortie de cette zone de turbulence, de cette période de crise. Ne pas généraliser, parce que vous avez beaucoup de personnes qui vivent très mal le confinement parce qu'elles se comparent aux autres, elles voient sur les réseaux sociaux le toujours plus, faut réussir son confinement, faire du sport, de la gym, du machin,
des injonctions,
voilà, être dans la performance et qui le vivent très mal parce qu'ils se comparent. Ce qui est important, c'est d'être soi-même, être bien vis-à-vis de soi-même et éviter cette comparaison, comparaison normative qui est très forte dans notre société française en particulier, comme si on devait tous faire la même chose, réussir au même moment. Donc là, il y a une date de confinement qui a été imposée, une date de déconfinement, on voit bien qu'elle va pas être tout à fait la même et avec des contextes très différents, mais on peut pas répondre de façon tranchée parce que ça serait désubjectiver l'individu, c'est-à-dire ne pas respecter un être humain pour ce qu'il est, un sujet avec son histoire. On est tous différents.
On va tous vivre cette période-là différemment. D'accord. Combien de temps, selon vous, même si on est tous différents, et là vous allez certainement me répondre aussi que ce sera différent pour chacun, mais voilà, c'est quand même une expérience inédite. Ce qu'on a vécu là, on peut imaginer quoi, s'en remettre après 15 jours, 3 semaines. Ça va être immédiat pour certains, c'est ça? Ce sera différent aussi.
Alors, si d'un niveau psychique, quand on a vécu un événement traumatique, et le Covid-19, ce virus qui est mortel, et le confinement et tout ce qui en est autour de la mort, de ce risque de mourir, est un événement traumatique. Parce que l'événement traumatique, c'est ce qui fait référence à la mort. On met toute une vie pour s'en remettre. Alors, vous allez me dire, c'est pas possible. Ouais. Mais remettre toute une vie pour s'en remettre, c'est pas forcément être négatif. On met toute une vie pour s'en remettre, au même titre que quand on a vécu un deuil, on n'accepte jamais un deuil. On met toute sa vie à apprivoiser ce deuil. C'est un événement de vie. Ceux qui ont vécu la guerre, ils ont vécu avec le vécu de la guerre, l'expérience de la guerre, toute leur vie, ils l'ont jamais oublié, ils mettent en mémoire, on apprivoise. Donc on va apprivoiser. Ce qui va changer, c'est le temps. Parce que le confinement, c'est pas une maladie, enfin, le confinement n'est pas une maladie. Combien de temps on va mettre pour en guérir? On va réussir à réinscrire une autre vie. Si on n'est pas dans le comparatif avec la vie d'avant, ça, c'est psychiquement très important de pas être dans le comparatif d'avec avant. Ce sera plus jamais comme avant. Il y a un devenir qui est possible. Ça, c'est fondamental. Et on le sait par des expériences, entre autres de guerre, si on parle en France de ce qui a pu se passer après la Seconde Guerre mondiale. Les gens qui l'ont vécu, ils ont passé toute leur vie à vivre avec ces souvenirs, mais ça ne veut pas dire être en survie ou mal vivre. On vit avec, on n'est pas dans le déni.
Alors,
on
a appris,
choses très positives et c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer.
Alors Hélène Romano, je reviens vous voir, je voudrais donner la parole à Jean Viard et à Nicolas Bouzou parce que la question c'est évidemment quelle économie pour demain. On est en récession, on va où comme ça? La question, je vous la pose juste après. Écoutons d'abord, si vous le voulez bien, Nicolas Bouzou, le prix Nobel d'économie Jean Tirole. Il était invité d'Europe 1 le 29 mars dernier.
Il faut avoir moins de court-termisme, c'est-à-dire une vision à courte vue, envisager l'avenir plutôt que de consommer. Aujourd'hui, il faut dépenser, il faut sauver l'économie, il faut protéger les particuliers qui sont fragiles. Et on s'est mis dans une situation, en disant, mais là, vous savez, la dette, c'est pas grave, on s'est mis dans une situation où on pourrait avoir des difficultés. Et c'est un peu dommage. Donc il faut arrêter de raisonner à court terme.
Alors, quelle économie pour demain, alors qu'on est en récession? Ça, évidemment, il s'agit de la zone euro et de la France, bien sûr. Mais concrètement, plus largement, Nicolas Bouzou, il va falloir quand même se réinventer aussi, penser à l'écologie, penser à notre planète. Tout ça, il va falloir l'incorporer, non?
Ah oui, mais c'est très bien. C'est très bien pour l'économie. Non, mais l'écologie, moi, je fais partie de ceux qui pensent que il y a aucun antagonisme entre l'économie et l'écologie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, parce que des sujets qui étaient peut-être pas complètement mûrs avant la crise, je pense à la taxe carbone aux frontières européennes, par exemple, ou à la nécessité de faire plus de vélos, de se déplacer dans les métropoles à vélo. Vous voyez, bah, ce sont des sujets qui aujourd'hui sont beaucoup plus mûrs. Si vous faites la taxe carbone au niveau européen, c'est bon pour l'écologie et c'est bon pour l'industrie européenne. Si vous faites un plan de relance automobile en augmentant considérablement la prime à la conversion pour faire en sorte que les gens achètent des véhicules propres, c'est bon pour l'économie. Si vous développez, sujet qui nous passionne d'ailleurs, Jean Viard et moi, l'économie circulaire, c'est-à-dire le fait de réparer les objets, de ne pas les jeter n'importe comment, quand ils sont cassés, d'essayer de les démonter, de les transformer, etc. Ça fait plein d'activités dans la réparation, ça revitalise les centres-villes, etc. C'est bon pour l'économie. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on arrive à se dire qu'on a une œuvre de reconstruction, parce que la récession dont vous parlez, elle est incroyablement forte.
Bah oui.
Ça, c'est mon devoir, hein, vraiment d'insister là-dessus.
Sûr.
Je suis désolé, mais jamais personne, jamais aucun auditeur d'Europe 1 n'a jamais connu un choc de cette ampleur-là, puisque ce que nous dit l'INSEE, c'est que l'économie, grosso modo, elle tourne aujourd'hui à 65% de son niveau habituel, et dans le secteur privé, on est à 50% du niveau habituel. Ça veut dire que la récession dans le secteur privé, c'est moins 50% aujourd'hui. D'accord ? Donc, évidemment, personne n'a jamais connu ça. Ça va générer beaucoup de faillites, énormément de chômage. Mais bon, il va falloir qu'on traite tous ces problèmes les uns après les autres et qu'on reconstruise une économie avec de la bonne productivité, c'est-à-dire des gens qui sont contents d'aller travailler dans les entreprises. Il va y avoir plus de télétravail, ça c'est quand même formidable. Donc on va essayer, enfin,
ça vous paraît réaliste,
ah oui.
On va pas repartir bien en tête. Alors attendez, vous savez quoi, on va quand même se poser la question juste après ça. On va poser la question aussi à un Jean Viard et puis un auditeur qui nous appelle, qui est chef d'entreprise. Voilà, va-t-on inverser, c'est peut-être parfois aussi revoir un peu les priorités. On s'en parle dans une seconde sur Europe 1.
Votre grand journal du soir en édition spéciale jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, un grand journal spécial ce soir où on revient sur ces mois, ces semaines de confinement avec toutes vos réactions évidemment au 39-21 et vos invités, Nathalie Lévy.
Oui, Jean Viard, Nicolas Bouzou, vous êtes avec nous, avec Hélène Romano également, psychothérapeute et essayiste, et nos auditeurs. Didier, bonsoir, vous nous appelez d'Avignon ce soir. Vous êtes chef d'entreprise, bienvenue à vous, ça y est, c'est reparti, lundi, tout le monde au travail chez vous, et dans quel état d'esprit?
Alors, lundi, il y a une reprise, mais c'est pas un coup de baguette magique que tout le monde retourne effectuer son job. Les commandes reviennent et l'économie repart lundi matin à 9h. C'est pas totalement ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision d'abord, comme le disait une personne qui est venue tout à l'heure, court terme. Le court terme, c'est quoi? C'est relancer les activités commerciales d'abord pour générer des commandes. Les entreprises, elles ne vivent que grâce à la disponibilité, au cash, dont à la facturation et aux encaissements. La priorité, c'est de re-remplir les caisses, de pouvoir repérenniser nos organisations sur le moyen terme. Et là, on pourra se poser des questions sur des modèles d'entreprises différents, des offres différentes, des gestions du changement des collaborateurs sur ces nouvelles offres, des nouvelles manières d'exécuter les emplois également, les métiers.
Vous y croyez-vous?
Moi, j'y crois complètement, parce que c'est le modèle sociétal qui va l'imposer. C'est pas la politique, c'est le modèle sociétal. Alors, moi, je pense à une chose. J'entends sans arrêt les collectivités parler de marketing territorial pour faire venir des entreprises. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est quand je fais venir des métiers en province. Par exemple, monsieur provincial. Aujourd'hui, il faut arrêter d'espérer d'avoir les grands groupes s'installer à Avignon. Il faut que, au contraire, on ait des structures d'accueil pour recevoir des métiers, des nouveaux métiers, pour pouvoir justement proposer du télétravail, des infrastructures modernes, connectées, etc., etc. Et ça, j'y crois.
J'y crois parce que je Et c'est comme ça que vous allez procéder aussi. Merci beaucoup. Non, mais c'est très intéressant parce que merci beaucoup Didier de nous avoir appelé ce soir d'Avignon. Jean Viard, c'est très intéressant d'entendre la parole de Didier. Est-ce qu'elle est véritablement celle qui aujourd'hui ressort? Parce que est-ce qu'on va pas tous devenir là dès lundi obsédés par la croissance prioritaire à l'automobile, au bâtiment, au tourisme? Est-ce qu'on va pas retourner le nez dans le guidon, franchement?
Non mais si vous voulez, il y a des signaux faibles d'avant qui se sont développés. L'amour du local, la critique de l'avion, etc. Oui. Il y a d'autres signaux qui deviennent forts, par exemple le rôle nouveau du numérique. En gros, après la guerre de 40, ça a été le triomphe de l'essence et des voitures, parce que pour aller d'un point à un autre, on avait la voiture. Nous, on avait déjà des ordinateurs, on a basculé dans le monde numérique. Mmh. Ça veut dire que ça sera le lien dominant. Après, on prendra aussi sa voiture pour aller se voir, mais ça sera dominant. Je veux dire, des choses comme ça, elles sont faites. Je veux dire, quelque part, c'est une révolution historique qui se passe. On a tous appris à se servir de Zoom ou d'autres programmes, etc. Les entreprises, les patrons se sont rendus compte qu'un salarié qu'on ne voit pas travaille, alors qu'en France, on a un peu le sentiment qu'il n'était pas là, qu'on ne pouvait pas le surveiller, ça marchait pas. Ouais. Et donc, il y a 30% des gens en télétravail, 52% des Parisiens. Et il y a plein de gens qui pourraient être un jour ou deux en télétravail, même des gens qui ont des métiers assez simples, parce qu'un jour, ils passent les commandes, etc. On est sur un nouveau rapport entre le lieu physique du travail, la maison et les lieux numériques. Ça, je pense que ça va rester. Bien sûr. Et puis en même temps, si vous voulez, on est reparti dans une aventure. On avait l'impression d'être bloqué. En gros, il y avait des populistes, des machins, on comprenait plus très bien, etc. Les gens ils disaient tout le temps qu'ils étaient heureux dans leur vie privée. Faut pas rigoler, c'est pas une société qui s'effondrait. Les gens étaient contents dans leur travail, dans leur quartier, dans leur vie privée à plus de 60%. C'est quand même pas rien. La vie s'allongeait, le tiers-monde se développait dans certaines parties, il y avait encore de la pauvreté, etc. Faut pas tout jeter avec Claude Urbain. La domination du marché depuis 50 ans a méprisé la politique. La consommation a écrasé le citoyen, mais il n'y a pas que des résultats négatifs. Là, on vit un changement immense. Alors, bien sûr, dans un premier temps, on va essayer de reprendre ses habitudes, mais on aura peut-être, on pourra plus s'embrasser, on pourra pas se dire bonjour,
on pourra pas. Bien sûr, on va y venir, c'est intéressant.
Et puis surtout, il va y avoir. Non, mais puis il va y avoir, si vous voulez, ce que dit très bien Nicolas, c'est-à-dire on va avoir un chômage, notamment les 600 000, 800 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, ils vont se casser le nez devant la vitre, et ceux qui sont au chômage, leur espérance de trouver un boulot a baissé. Donc il va y avoir du court terme, où il y a cette masse de chômeurs, moi je dis là, il faut faire du keynésianisme, quoi, c'est-à-dire en gros, faire des grands chantiers, à la limite, isoler les maisons, on parle que des voitures électriques neuves, moi je suis un grand défenseur de la transformation des voitures en mode électrique, c'est beaucoup moins cher, donc il y a des urgences pour occuper les gens dans des choses utiles. Ouais. Et puis effectivement, alors, il y a prendre compte cette nouvelle situation. Mmh. Oui, les bureaux en centre-ville, bien sûr, je pense qu'ils vont baisser parce que plein de gens vont plus y aller, etc. Mmh. On va gérer autrement l'espace.
On fait le point dans un an, vous êtes d'accord ou pas?
Ce qu'on a vu.
Même dans 6 mois. Attendez, je voudrais simplement, je disais, mais on fait le point dans 6 mois. Mais c'est intéressant parce que on va voir effectivement si sur la longueur ça tient. Je voudrais donner la parole à Hélène Romalmo, si vous le voulez bien. Hélène, parce que Jean-Pierre vient de l'évoquer d'ailleurs, on est privé, ça y est, de corporalité pour un moment. Va falloir réinventer nos rapports sociaux, mettre de la distance partout, dans tout. Plus de poignées de main, plus de bises. Et dans les pays latins, dont nous sommes, l'Italie, la France, etc. Comment on va faire selon vous?
Ben, on va s'adapter et l'être humain a quand même une capacité d'adaptation assez extraordinaire. Il faut, si on essaye de positiver, parce que soit on voit les choses très négativement et on va tous plonger, soit on essaye de positiver, c'est aussi une occasion unique de repenser notre société, de repenser les valeurs de notre société, l'identité que l'on veut donner à notre société moderne. Entre autres, une société, on l'a vu sur la notion de l'écologie, la place de la famille, les modalités de travail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être repensées et entre autres le mode relationnel. Comment est-ce qu'on communique autrement, comment est-ce qu'on apprend à se dire les choses par d'autres moyens, peut-être dans un premier temps que de ces accolades, ces embrassades qui sont très latines, mais dans d'autres pays, en Asie, on communique aussi très bien autrement. Donc on va devoir réinventer, faire preuve de créativité, mais si on le fait de façon positive, en se projetant vers l'avenir de façon positivement, ça sera beaucoup plus facile que si on le fait par contrainte. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit, une mentalité extrêmement importante. Si on veut arriver à dépasser positivement cette épreuve, parce que c'est une véritable épreuve du confinement, pour le meilleur et pour le pire. Il faut pouvoir la penser de façon positive. Et c'est une occasion unique de revoir. On parlait de la logique médicale qui est devenue soignante, qui est devenue une logique comptable. Ça fait des années, moi, en tant que soignante, que avec d'autres, on dit ça n'est plus possible, on ne peut pas limiter justement les patients à des usagers et faire des cadres, des infirmiers, des managers, voire des bed managers comme dans les hôtels. On ne peut pas. Le soin, ça a un coût.
Tout à fait.
Et donc le soin, ça, on va revoir probablement ça.
Tout à fait. Je voudrais y venir avec vous, Nicolas. Nicolas Bouzou, Hélène Romano, j'en viens dans un petit instant. Les métiers du grand âge qui ont été très exposés aussi et dont on voit, parce que la population vieillit, qu'ils seront plus nécessaires encore demain. Comment les reconsidérer? On y vient dans un petit instant. Vous restez avec moi jusqu'à 20h pour cette émission spéciale à 3 jours, un peu moins maintenant, du déconfinement. À tout de suite.
Et votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, un grand journal spécial ce soir avec vous Nathalie Lévy et avec vos invités. On revient sur ce temps de confinement que nous avons vécu ces dernières semaines, avec également les réactions des auditeurs d'Europe 1 au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Et comment se préparer au monde de demain? Comment voit-on ce lundi 11 mai et les jours d'après? Jean Vier, Nicolas Bouzou, Hélène Romano, merci de m'accompagner. Les auditeurs, Edith par exemple, bonsoir Edith, vous nous appelez ce soir de Bordeaux. Bonsoir, oui. Bienvenue. Bienvenue. Alors, Edith, voilà, lundi, on y sera. Comment êtes-vous? Dans quel état d'esprit, vous?
Merci de nous donner la parole, je vais faire très vite. Moi qui suis d'un naturel très optimiste depuis toujours, j'ai 65 ans, j'étais mal partie sur ce sujet-là parce que je suis une personne à risque, avec une cardiopathie, entre autres. Mais en fait, je pense pas du tout à moi. Lundi, ça va absolument rien changer. Je vais continuer à m'inquiéter, surtout pour mes enfants, pour la jeune génération. J'en ai de 40, 30 et 26 ans et j'ai des petits-enfants. Je suis très inquiète pour eux au niveau économique. Et puis, accessoirement pour moi-même, je me dis que l'horizon est complètement bouché. Je ne vais plus pouvoir voyager, même quand tout le monde pourra revoyager, à cause de mon âge et de ma santé. Et pour la première fois de ma vie, je suis extrêmement pessimiste. Voilà.
Ouais. Et vos enfants ne vous rassurent pas, ou eux sont-ils aussi pessimistes comme vous?
D'abord, j'ai essayé de ne pas partager mes craintes pendant toute cette période, parce que très vite, ma fille de 26 ans qui vit à Paris dans 35 mètres carrés et qui est en télétravail depuis 2 mois a mis le holà et l'a bien fait. Ouais. Donc non, j'ai pas projeté mon inquiétude sur elle, ni sur eux, mais celui de 30 ans, par exemple, est optimiste. Celui de 41 ans, il est chercheur en Angleterre. Il est optimiste quand même. Économiquement, quel avenir ont-ils? On est très inquiets pour eux. Parce que je suis retraitée, moi, depuis 3 ans, donc je n'ai pas du tout à me plaindre. J'ai une grande maison, j'ai un beau jardin, c'est pas le problème. Et accessoirement, oui, la vie pour moi, si je peux pas les voir, si je peux pas vivre avec eux, si je peux pas aller les voir, je vois pas trop quel sens a la vie pour moi aujourd'hui.
Merci beaucoup, Edith. On espère évidemment que vous allez pouvoir les retrouver très bientôt, vos 3 enfants. Et on vous salue. Les métiers du grand âge, je voudrais en parler avec vous trois, Nicolas Bouzou, Hélène Romano et Jean Vier, parce que ils ont été eux aussi en première ligne et la population vieillit et ils ne sont pas considérés aujourd'hui. Comment les considérer comme une voie d'excellence et non comme des petites mains, bien sûr des moyens, mais c'est tout un rapport, c'est toute la société qui doit changer son rapport à ces métiers-là. Jean Tirole, Nicolas Bouzou et Hélène Romano pour réagir là-dessus. Jean Vier, pardonnez-moi.
Oui, c'est allez-y. Pas grave, je suis assez honoré.
Allez-y.
Bon, qui c'est qui parle?
Allez-y Jean Vier, allez-y.
Quoi?
Allez-y Jean Vier, si vous m'entendez.
Moi je dirais une chose d'abord. Ce qui m'a frappé, c'est que les plus de 70 ans, on est devenus les vieux. Vous voyez, avant, c'était les plus de 60 ans. Et là, d'un coup, moi, je sais qu'un jour, moi, j'ai plus de 70 ans, je me suis vu dans le camp des vieux, c'est une idée que j'avais jamais eue. Donc déjà, on a déplacé la barrière, je dirais, entre les générations. Et c'est symbolique, parce qu'en plus, on nous a dit qu'on était plus fragile, etc. On n'a plus pu voir nos petits-enfants, qui en général le grand bonheur des plus de 70 ans. Donc ça, c'est une chose forte. Après, moi, ce que je trouve, si vous voulez, c'est que ces sociétés sont pas respectueuses des anciens. On a commencé par augmenter les impôts après l'élection présidentielle sur les anciens. Après, on n'arrêtait pas de discuter de la retraite. Là, on se rend compte quand même qu'à peu près la moitié des décès sont des gens qui étaient en EHPAD, ils sont morts en EHPAD ou à l'hôpital. Oui. Attendez, il y a quand même qu'un ancien sur 3 qui est en EHPAD. Oui. Donc il y a plein d'anciens qui ne sont pas morts.
Il va falloir permettre.
Ça veut dire qu'on réfléchisse là-dessus.
Voilà.
Ouais. Pardon. Non, je voulais juste dire une chose, c'est que la pandémie, elle n'est pas terminée. Ni celle-là, elle est toujours là. Il y en aura d'autres. Je veux dire, il faut qu'on rentre dans un monde où il y aura des pandémies de temps en temps, moins possible. Et une chose importante, vous voyez, moi, ça fait longtemps que je revendique, quand j'ai des congrès d'HLM, je leur dis, installez les vieux dans les immeubles de leurs grands-parents, de leurs enfants, acceptez la proximité familiale dans les bâtiments. Ayez une pensée du social qui soit autour de la tribu familiale. Que font les gens bourgeois, parce qu'ils peuvent se permettre de déplacer leurs anciens. Dans le social, c'est interdit. Il faut décider que dans une tour où il y a des familles, il y a 10 logements pour les vieux et peut-être une personne à plein temps qui s'occupe de ces 10 personnes âgées.
C'est ça, c'est un peu l'EHPAD à domicile.
De séparer les familles.
Exactement.
Mais bien sûr, pour permettre la première solidarité, c'est la famille.
Mais bien sûr, cette crise, Nicolas Bouzou. Mais bien sûr, vous avez raison, cette crise du coronavirus, elle a montré, Nicolas Bouzou, qu'on n'est pas du tout armé pour accompagner le grand âge. Ça nous a sauté aux yeux. Les EHPAD sont des lieux fermés. On va seulement pour mourir. On va faire comment pour transformer ça? Et est-ce que on a eu cette prise de conscience? Il va falloir aller vite.
Ouais, je suis très sensible à ce que dit Jean Viard. Peut-être pourrais nuancer un tout petit peu sa sévérité à l'égard de la société, enfin du rapport de la société par rapport à nos anciens, parce que cette maladie, comme il l'a très bien dit, elle touche avant tout les personnes les plus âgées et de façon générale les personnes les plus fragiles de notre société. Et justement, ce que je trouve assez formidable et admirable dans la période qui est en train de s'écouler, c'est que on a décidé d'arrêter l'économie mondiale. Au fond, on a décidé d'accepter un appauvrissement général. Nous allons tous nous appauvrir, un peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Mais pourquoi on a fait ça? Pour protéger les plus fragiles. Ça montre quand même que la modernité qui est tant critiquée, elle est moins matérialiste qu'on le dit. On a été capable de mettre de côté les considérations matérielles pour aider les plus fragiles. Alors, une fois qu'on a dit ça...
comme la population est vieillissante,
vous avez une fois raison, les EHPAD, c'est très compliqué cette affaire, parce que vous voyez, les EHPAD, c'est très cher pour les familles, mais ça ne permet pas, bien que ce soit très cher, ça permet pas de rémunérer aussi bien qu'on le souhaiterait les personnes qui travaillent dans ces établissements. Donc là, il y a sans doute deux choses à faire. La première chose, c'est de se dire qu'il va falloir qu'on développe des mécanismes d'assurance, voire d'assurance publique, c'est-à-dire que l'État-providence dont vous parliez tout à l'heure, il couvre le chômage, il couvre la maladie, il couvre la retraite, là il couvre pas la dépendance. Oui. Donc il y a sans doute quelque chose à imaginer de ce côté-là. Ça va coûter cher, hein. Concrètement, c'est des cotisations et des impôts. C'est obligé, mais il faut que les gens l'acceptent. C'est des cotisations et des impôts en plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que il faut aider les EHPAD à investir pour faire en sorte que les personnels soignants ils puissent gagner davantage d'argent et puis ils puissent.
Ah, petite interruption, Nicolas Bouzou, on va vous retrouver dans un instant, c'est les joies évidemment de la radio à distance, comme on le fait depuis le début de ce confinement, mais on vous retrouve dans un instant. Du coup, je me tourne vers Hélène Romano, si Nicolas Bouzou n'est pas là. Mais Hélène, pardonnez-moi, je voudrais avancer parce qu'il nous reste malheureusement peu de temps, mais parce que nos enfants vont retourner à l'école lundi, pour certains, parce que tous les établissements
scolaires ne l'ouvrent pas. Oui, mais je vais faire le lien justement entre les deux, c'est-à-dire qu'on est dans une société de la rentabilité, de la performance, il faut qu'on modifie ce paradigme, c'est-à-dire modifier vraiment notre logique sociétale et qu'on soit celle dans la transmission et qu'on arrête d'être dans la rentabilité et avec cette notion de jeunisme qui prend beaucoup de place. Les personnes âgées ont été oubliées, mais alors très sincèrement, les enfants ont été les plus grands oubliés du Covid et du confinement. Il n'y a eu aucune allocution pour leur expliquer à eux ce qui se passait. On leur dit que c'est eux qui sont porteurs, qui peuvent rendre malades les adultes. C'est une génération qui a vécu les attentats, qui a vécu des choses extrêmement difficiles. On a une génération d'enfants qui est actuellement sacrifiée et on fait attention aux aînés, c'est très important. On doit revoir notre logique sociétale sur cette notion de la transmission. Et en effet, je rejoins ce qui a été dit, de transmettre des personnes, des seniors aux enfants plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus à cause des bouleversements familiaux. Mais aider les enfants, ça sera aussi leur permettre de refaire du lien avec les seniors, avec les personnes âgées de leur génération, de leur famille ou d'autres. Éventuellement, il y a des liens qui sont entre des crèches et des EHPAD, par exemple. Ouais, il faut repenser une solidarité sociale qui ne soit pas axé sur la performance et le jeunisme. Si on sort de ça, le confinement nous permettra peut-être d'avoir une autre représentation sociétale et d'arrêter cette idéalisation au jeunisme et de mettre l'accent sur l'importance de la transmission. On fera attention aux jeunes parce que les grands oubliés du confinement, encore plus que les âgés, ce sont les jeunes. Je vous rappellerai juste que les enfants
Vous imaginez même des phobies scolaires, etc. là dans les prochaines semaines.
On est très inquiets des troubles anxieux scolaires à la rentrée à cause de parents inquiets et qui seront forcément stressés, anxieux s'ils sont pas rassurés, ils seront pas rassurant, d'enfants aussi. Mais vous avez tous les enfants qui ont été placés pour lesquels il n'y a pas eu de suivi. On nous a dit qu'il n'y a qu'à faire le 119, mais un enfant maltraité ne peut pas faire le 119. Il y a eu beaucoup d'abandon au niveau sociétal sur les gens les plus précaires à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment revoir notre conception de la société pour laisser une place aux enfants, mais aux seniors. Les deux extrémités sont actuellement très en danger.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné ce soir dans cette veille de déconfinement. Hélène Romano, psychothérapeute et essayiste. Nicolas Bouzou, économiste. Jean Viard, sociologue, bien sûr. Vous êtes avec nous.